Bonjour, bonjour vraiment à toutes et tous. Du fond du cœur, très très heureux de vous retrouver. Alors je complète un tout petit poil ce que vient de dire Vincent par rapport à mon lien à Dueck. J'étais supérieur du séminaire de Toulouse quand l'association a décidé, le conseil d'administration, d'écrire à l'ensemble des supérieurs des séminaires de France pour nous interpeller sur, alors, présenter l'association, blablabla. C'était Régis Courtrai, à l'époque, qui est originaire du diocèse de Toulouse, qui était le président de l'association. Et ils avaient écrit donc à tous les supérieurs pour dire, voilà, les membres de notre association font le constat que bien souvent, les prêtres que l'on rencontre ne savent pas bien faire avec nous. Et donc, on aimerait réfléchir avec vous, sans idée préconçue de quoi que ce soit, mais réfléchir avec vous comment sensibiliser au moment de leur formation, les futurs prêtres, à cet accompagnement, accueil pastoral, de qui sont les personnes chrétiennes et homosexuelles, homosexuelles et chrétiennes. Voilà. Bon, très bien. Alors, on a réfléchi avec le conseil des formateurs du séminaire de Toulouse. On a mis un an et demi à donner une réponse à ce courrier pour dire, allez, top là, on ne sait pas nous non plus ce qu'on va faire, mais rencontrons-nous et puis on verra. Et donc, il a été décidé de mettre en place, c'était vers 2011 ou 12, quelque chose comme ça, un module de formation dans le cadre de ce qu'on appelle l'année diaconale. Les diacres reviennent au séminaire une semaine par mois, avant d'être ordonnés prêtres, et de consacrer un des modules de formation de l'année diaconale à cette question de manière très très précise. Et quand ça s'est mis en place, ça a été conçu de la façon suivante. 4 intervenants, un couple de parents d'un jeune homosexuel, un prêtre de Lyon, qui était prof formateur au séminaire de Lyon et accompagnateur d'un groupe d'UEC à Lyon, et puis Régis Courtrai lui-même, donc membre de l'association. Et pour ce qui est des contenus, ils s'étaient répartis, mais les parents témoignaient de ce que ça fait pour des parents quand un enfant vient dire son histoire. Et puis, le prêtre, d'une part, et Régis, d'autre part, se sont partagés deux interventions. L'enseignement, la position de l'Église sur la question de l'homosexualité, des personnes homosexuelles, et puis l'accompagnement pastoral des personnes homosexuelles dans l'Église. Et ils ont eu cette intuition intéressante, je trouve, de croiser le sujet et l'intervenant. C'est Régis Courtrai qui donnait la position de l'Église sur l'homosexualité, et le prêtre qui parlait de l'accompagnement pastoral des personnes homosexuelles. Ça s'est vraiment super bien passé, à tel point que ça continue. Ce module continue d'être assuré au séminaire de Toulouse pour les diacres année après année. Et après, ça a coïncidé avec mon élection comme supérieur de la province de France des Sulpiciens, je dirai juste après ce que c'est, et Régis m'a écrit pour me dire, voilà, merci beaucoup de nous avoir fait confiance, ça s'est bien passé, blablabla. Et puisque vous allez sur Paris, l'association est bien présente là-bas. Il y a toujours des besoins de prêtres accompagnateurs pour tel ou tel groupe. Si le cœur vous en dit, j'ai mis un an à lui répondre. Et dans l'année en question, j'ai demandé au prêtre de Toulouse qui accompagnait le groupe de Dueck ce que ça voulait dire d'accompagner le groupe de Dueck. Vous savez, on donne l'ongle et puis après, c'est tout le reste qui y passe. En termes d'implication, d'engagement, etc. Puis j'ai demandé à mes confrères du conseil provincial de Saint-Sulpice, dont j'étais donc le supérieur, le curé de la paroisse de Saint-Sulpice, ce qu'ils pensaient de cette interpellation. Tous m'ont encouragé à accepter. Et donc j'ai donné ma disponibilité au bout d'un an. Et Dueck a mis un an à me recontacter pour me dire, ben voilà, il y a un groupe qui est en train de naître suite à un week-end sur la question du célibat, et du célibat choisi. Bon. Et donc, est-ce que vous accepteriez d'accompagner ce groupe naissant, célibataire pour le royaume? Je lui dis, tiens, ça fait pas d'un an encore. Bon, eh bien écoutez, allons-y. Et les deux fondateurs sont là, je suis très très heureux de ce groupe. Et voilà, on s'est rencontrés, et puis on a cheminé progressivement, l'association m'a demandé de présider régulièrement, mois après mois, la messe à Saint-Sulpice, à l'époque, jusqu'à mon départ pour Tarbes-et-Lourdes, où un certain nombre membres de l'association étaient présents, et j'étais heureux de pouvoir publiquement remercier l'association à la fin de mon ordination à Lourdes, et c'était très très beau moment. Voilà. Saint-Sulpice, c'est quoi? C'est une société de prêtres diocésains, fondée en 1642 à Paris, paroisse Saint-Sulpice, par le curé de la paroisse, dans une époque où il y avait une grande dynamique mystique et missionnaire à la fois, Saint-Vincent de Paul, tout ça, des missions qui étaient organisées par des prêtres zélés vers les campagnes françaises, pour que les gens redeviennent un petit peu, enfin voilà, soient renforcés dans leur foi chrétienne. Mais le constat était que, faute de retour chez eux, de laisser derrière eux des prêtres qui tiennent la route, eh ben, les fruits de la mission se perdaient vite dans les sables. Et donc, ils ont compris qu'il fallait aussi travailler à la formation des prêtres. Et Vincent Paul, Saint-Jean-Eudes, Jean-Jacques Ollier, curé de Saint-Sulpice, et quelques autres, Adrien Bourdoise ici à Paris, à Saint-Nicolas-le-Chardonnet, tout ça, ont créé des séminaires, des formules pour essayer de former des prêtres. Et la formule de Jean-Jacques Ollier à Saint-Sulpice a fait fortune, et il a été appelé par de nombreux évêques français à venir faire la même chose dans leur diocèse. Et Saint-Sulpice s'est déployé très très vite comme ça au XVIIe siècle, 1642 à Paris, place Saint-Sulpice, jusqu'à 1905. À partir de 1905, séparation de l'Église et de l'État, le séminaire est devenu l'hôtel des finances, et ils sont allés, le séminaire s'est installé dans la propriété qui était déjà dans la compagnie depuis le XVIIe siècle, ici les Moulineaux, où il est toujours, le séminaire de Saint-Sulpice. Voilà. Et puis après, au XXe siècle, des évêques ailleurs dans le monde ont demandé aux Sulpiciens de venir faire pareil chez eux, dans leur pays. Alors 1642 Paris, 1657 Montréal, qui est le siège de la province canadienne, et 1791, Révolution française, on chasse ces gens-là de France. Ils deviennent disponibles pour répondre à d'autres appels. Les États-Unis se lancent, première cathédrale de Baltimore, et l'évêque de Baltimore demande aux Sulpiciens français donc de venir créer leur premier séminaire américain à Baltimore, siège de la troisième province de Saint-Sulpice. XXe siècle, des Français vont en Afrique francophone, Vietnam et Chine. Les Canadiens vont en Amérique latine et au Japon, les Américains vont dans les pays d'Afrique anglophone, et aujourd'hui, les trois provinces correspondent à ces territoires-là. Voilà. Et donc j'ai eu la joie, pendant mes 9 ans comme provincial de France Saint-Sulpice, de me balader sur tout ce périmètre-là de la province, et puis avec quelques liens avec les autres, et j'ai été très très heureux de cette mission, un mandat complet de 6 ans, et puis un second mandat interrompu, à mi-parcours, puisque le 28 février, je reçois un appel d'une once qui me demande de le rappeler pour prendre rendez-vous. Le 1er mars, je suis dans son bureau, il m'annonce ma nomination. Il me dit « Maintenant, vous ne bougez pas, il faut attendre le feu vert du gouvernement français. » Et c'est ce feu vert-là qui est arrivé le 25 mars. C'est intéressant. Jour de l'annonciation, où je sortais de la cathédrale de Tarbes que je visitais pour la première fois incognito. Voilà. Donc c'était tout ça, un petit clin d'œil. Voilà, alors il m'a été, Vincent m'a envoyé le livret, je ne sais pas si vous l'avez déjà tous ou s'il vous sera donné en exclusivité à la fin de la journée. Bon, donc je l'ai eu il y a quelques jours, on va dire, le livret d'année avec le thème d'année, devenir un, et il m'a dit, ben voilà, on en a reparlé avec l'un ou l'autre, et on aimerait que vous nous parliez de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église dans l'Église. Bon. Alors, je me suis dit, mais j'espère que ce que je pourrais en dire sera utile et bienfaisant. J'en sais rien, vous verrez bien. Je commence par une citation de l'Évangile de Jean, chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Jésus, dans la construction de l'Évangile, est à la fin de son parcours, de son ministère, la croix n'est pas très loin, et il prie son Père. Et dans cette longue prière qui se déploie au long du chapitre 17, il livre son cœur à son Père, il prie pour tous, il prie pour nous, pour ceux qui croiront en lui, puis par cercle concentrique successif, il élargit sa prière. Et moi, chapitre 17, donc verset 22 suivant, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le thème d'année du nouveau livret, donc, de l'association reprend en partie le nom de Dueck. J'ai appris tout à l'heure que c'était le nom même originel de Dueck, qui a commencé par s'appeler Devenir Un avant, quelques mois ou années plus tard, de s'appeler Devenir Un en Christ. Mais il est aussi, ce thème, dans sa formulation, le cœur de la préoccupation quotidienne d'un pasteur d'Église. Je suis entré au séminaire en 1984 pour devenir curé. Ce qui était le cœur de ma vocation, c'était d'être pasteur d'un peuple. J'avais été marqué par la figure de mon curé quand j'étais gamin, ado, etc. Et je voulais prendre le relais, quoi. Alors je rêvais d'un presbytère sympathique, d'un petit jardin de fleurs, en fait, tout ça. Bon, j'ai eu ça pendant 3 ans. C'est tout. Quand j'étais curé, moi-même, de 95 à 98, en banlieue de Toulouse. Et pendant 24 ans, je n'étais plus pasteur direct d'un peuple, sinon d'un peuple un peu bizarre, constitué de séminaristes et de leurs formateurs, une fois devenus supérieurs provinciaux de France des Sulpiciens. Un peuple qui a la particularité, alors c'est facile de transférer ce qui habite le cœur d'un prêtre qui est entré au séminaire pour être pasteur d'un peuple, époux d'un peuple, bon, de transférer ça vers ce nouveau peuple un peu bizarre qui est séminariste et leur formateur. Sauf que ce peuple-là, il se disperse quand c'est le sommet pour les autres pasteurs, c'est-à-dire le dimanche, les vacances, les fêtes religieuses, etc., etc. Et donc c'est un peu frustrant. Et j'ai passé 24 ans à voilà, ce service-là. Et depuis 3 ans et demi, je retrouve le cœur de ma vocation, ce pourquoi je suis rentré au séminaire au fond, c'est-à-dire je redeviens pasteur direct d'un peuple, où je prends ma houlette. Ça s'appelle un caille, un bigorre, le bâton du berger accroché au bout. Et pour hier matin, j'ai passé la matinée avec des tas de gens, membres des EAP, équipe d'animation pastorale, équipe du conseil des affaires économiques, dans le cadre de la réforme globale du diocèse, de 3 nouvelles paroisses du diocèse, le secteur de l'Almezan, à l'est du département, des vallées du sud, la vallée d'Or, la vallée du Louron, Saint-Lary, etc. Bon, Saint-Lary-Soulan, pour ceux qui vont faire du ski par là. Et puis le nord du diocèse, enfin, cette partie, cette tranche nord, là, les coteaux de Gascogne, Castelnau-Magnoac, pays d'Antoine Dupont, pour ceux qui aiment le rugby, ou Notre-Dame de Garaison, pour ceux qui aiment l'enseignement catholique. Voilà. Donc, j'étais avec ces braves gens, et là, je suis au cœur de ce pourquoi je suis fait. Quoi. Voilà. Et quand on me demande, alors, ça fait quoi Mais je me sens à ma place. Alors, j'essaye de le dire très, très modestement, mais c'est cette relation-là qui nourrit mon cœur, et servir l'unité de ce peuple est vraiment ce à quoi j'essaie de passer mon temps. Devenir un. Devenir un, ça exprime le désir de réaliser, d'atteindre l'unité, que l'on peut décliner, comme c'est fait dans le livret, dans de multiples dimensions. Alors je me souviens, il y a plusieurs années, on m'avait invité, dans le même contexte, à venir faire, pareil, une journée comme ça, à partir du thème d'année de l'époque, et j'avais, au moins le matin, passé beaucoup de temps, enfin, tout l'entretien du matin, à décliner le livret. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça cette année, parce que le livret est bien fait, parce que vous allez le décortiquer dans les groupes de partage tout au long de l'année, et que je n'ai pas envie de paraphraser ce qui est déjà là. Bon, unité en nous, unité entre nous, les humains, unité avec l'Église, ce qui n'est pas un petit défi, unité avec la création, et nos générations y sont devenues très sensibles, unité en Dieu et avec Dieu. La formulation « devenir un » souligne que nous avons affaire à un processus, devenir. Un travail qui dure, qui se déploie, un itinéraire que, chrétiens, nous pouvons appeler pèlerinage. Ce processus est un pèlerinage, vraiment, un pèlerinage. Pèlerinage intérieur, au moins, mais aussi, éventuellement, extérieur. Pour les chrétiens homosexuels, plus que pour d'autres peut-être, ce pèlerinage est aussi exode, entre Égypte et Terre promise, avec des avancées, des retours en arrière, la faim et la soif, jamais totalement satisfaits ou satisfaites, les récriminations contre Moïse et contre Dieu, des moments plus exaltants où Dieu se rend sensible, joie de l'Alliance, puis reprise de la route austère, épreuves diverses, avancées quand même. Voir, exode donc, voir exil, exil à Babylone, déportation dans une terre étrangère, anéantissement de l'espoir de voir un jour le bout du tunnel, jamais l'Église ne changera. Sentiment d'être abandonné de Dieu, bien sûr, il y a des prêtres sympas, des fois trop sympas, mais l'Église, globalement, il n'y a qu'à voir, fiducia supplicans. Ça donne de l'espoir, mais trois jours après, tout de suite, on corrige le tir, pour dire les personnes, pas les couples. Bon. Sentiment d'être abandonné de Dieu, doute que l'espérance et la foi aient réellement un objet au fond. Moitié du nom de Dueck, votre thème d'année est tout un programme en soi, devenir un. Devenir un. Je le disais, ça exprime aussi le cœur de la préoccupation d'un pasteur d'église. Quelques références pour vous convaincre de la théorie, au moins de la chose. Lumen Gentium numéro 23. Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II, des grands textes majeurs de référence pour l'Église catholique depuis Vatican II, donc depuis 62-65. Les évêques sont les principes et les fondements visibles de l'unité dans leurs églises particulières. L'unique cathèdre contenu dans l'église cathédrale, c'est-à-dire le siège de l'évêque, en est un signe symbolique fort, et le bâton du berger qui l'accompagne dans les liturgies aussi. Surtout le crochet qui surmonte la crosse et qui est fait pour ramener tout le monde dans le même bercail. Principe et fondement de l'unité dans leurs églises particulières. Depuis 3 ans et demi, je passe une grande partie de mon temps de prédication à parler de l'unité, de la communion à l'intérieur du diocèse, et aussi du lien du diocèse avec le reste du monde. Et dans un diocèse fait de pays, de vallées encaissées, de petits villages très dispersés, ce n'est pas le plus petit de mes défis. Depuis 3 ans et demi, je passe une autre bonne partie de mon temps avec mon bâton de berger à aller de communauté en communauté pour les inviter toutes à se sentir membres de la même famille. Depuis 3 ans et demi, une bonne partie de mon activité consiste à convaincre les uns et les autres d'ouvrir leurs yeux, leur esprit, leur cœur pour aimer être l'Église faite de personnes de gauche et de droite, de tradis et d'autres, à qui entendre kyrie donne des sueurs. De personnes et familles bien dans les clous, qui ont droit à tout, à tous les sacrements, à toutes les attentions. De personnes et familles moins bien dans les clous, qui ne se sentent pas bien aimées de l'Église et dans l'Église en raison de leur situation. Personnes pauvres, personnes divorcées, personnes homosexuelles, personnes blessées par l'Église elle-même et par des hommes d'Église, en désaccord avec tel ou tel point de doctrine ou de discipline. L'évêque est appelé à être un artisan de communion. Autre citation de la théorie de la chose, Pastores Gregis, numéro 22, texte de référence sur la mission des évêques. L'évêque est appelé à être un artisan de communion. Médiateur, appelé à résoudre les conflits, à promouvoir la réconciliation autant que possible, témoin de la charité, qui invite chacun à vivre l'amour du prochain, fondement de l'unité chrétienne. Le fondement de l'unité, c'est l'amour de l'autre et des autres, inconditionnel. Todos, todos, todos. Je suis évidemment sensible à ces définitions théoriques de ma mission qui rejoignent bien mon cœur et mon agenda. C'était important pour ma propre unité intérieure de ne pas être trop écartelé entre ce que je crois profondément, ce que je crois officiellement et que j'enseigne, et ce que je vis au quotidien, bon an, mal an. Bon, je reviendrai sur tout ça d'une manière ou d'une autre. Autre citation d'Écriture, Saint Paul, lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et suivants. « Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Devenir un est un projet. Ce à quoi nous aspirons intérieurement et qui vise, je l'ai dit, l'unité intérieure de nous-mêmes afin de ne pas devenir fous. Mais aussi l'unité avec les autres, avec Dieu, avec l'Église, avec le monde qui nous entoure. Rien ne s'acquiert en une fois, rien n'est acquis une fois pour toutes. Processus, itinéraire, chemin, pèlerinage. Y parvenir est l'objet d'une quête, avec des avancées, des retours en arrière, des hauts et des bas, des enthousiasmes et des moments de grand découragement, de doute, de nuit, qui peuvent durer et être plus fréquents que le reste. Je rajoute que pour nous chrétiens, il y a une clé pour parvenir à ce but de l'unité. Je vous donne un indice, hein, c'est la suite du nom de Dueck. L'unité est un désir et une quête parce qu'elle est un don. Elle est un don avant tout. Elle est le désir même de Dieu. Dieu nous veut un. Un en lui, mais un en nous aussi. Unifié en nous. Accompli. En paix. Réussi, quoi. Heureux. C'est simple à formuler. C'est Dieu qui, en nous créant à son image et à sa ressemblance, a mis en nous ce désir-là d'accomplissement, d'unité, d'unification. Il y a un adage en théologie qui affirme que Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors s'il a mis ce désir d'unité en nous, eh bien il nous donne les moyens d'y parvenir, de la réaliser. Il nous en donne les moyens, mais il nous donne aussi ce cadeau de l'unité quelque part. Mais pas sans nous, pas sans notre coopération. Enfin voilà, c'est l'éternelle articulation entre la liberté de Dieu et notre propre liberté. Et notre coopération commune à l'œuvre de Dieu, quoi. Bon. S'il a mis en nous ce désir, s'il nous commande d'être un comme sont un le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors il nous donne de le réaliser. Il nous donne la capacité d'obéir à ce commandement de l'unité. Désir, commandement, don, quête et pèlerinage, tout un programme, devenir un. C'est pas long fleuve tranquille, bon, mais c'est possible. C'est quelque chose que vous m'entendrez répéter beaucoup, parce que je crois très fort qu'une des missions de l'Église, c'est de dire l'idéal est possible. Le rêve, il est possible qu'il devienne réalité. Pas tout seul, pas facile, tout ce qu'on veut, mais c'est possible. C'est possible. J'ai compris ça quand j'étais diacre. J'ai été ordonné le 20 mai 90 à Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne. Et j'étais aumônier de plusieurs lycées. Les années 90, c'est les années compliquées, le sida. Et le ministère de l'Éducation nationale faisait des campagnes dans les établissements scolaires pour aider les jeunes à être sensibles à cette question et à se protéger pour enrayer cette épidémie terrible. 5 lycées sur la ville de Saint-Gaudens où j'étais et 4 lycées publics, un lycée catho. Quand je vais à l'aumônerie d'un de ces lycées, ils me disent « Voilà, cette semaine, on nous a tous réunis pour nous expliquer comment enrayer l'épidémie du sida. » Bon. Et on aimerait en parler. Très bien, parlons-en. Mais alors, de quoi on vous a parlé? Mais des moyens d'arrêter la chose. Et il y en a combien de moyens en question? Alors, ils réfléchissent, ils me disent 2. Ah, moi, j'en ai 3. Bon. Alors, allons-y. Le préservatif. D'accord, je l'avais aussi, en coche. Pas de relation sexuelle du tout, pour ce qui est des transmissions sexuelles. Bon. Et oui, je l'avais aussi, c'est pas top pour le futur de l'espèce humaine, mais ça marche en effet. Bon. Et puis c'est tout. Ben, j'ai dit, il me semble qu'il y a un troisième. Alors, on réfléchit, mais ben, je vois pas. Alors je fais ma petite démonstration, vous savez, j'étais diacre, plein de zèle, tout ça. Monsieur A, mademoiselle B, le premier, le dernier, la première, la dernière, pour toujours. Bon. Ah ouais, mais ça, c'est l'idéal, mais c'est pas possible, dit le fils. Et j'ai compris ce jour-là que ma mission consisterait toute ma vie de pasteur à dire l'idéal est possible. La mission de l'Église, notre mission, votre mission, c'est de dire à ceux qui rêvent, c'est possible. À ceux qui rêvent de l'unité en soi, c'est possible. Malgré tous les déchirements, malgré les blessures, malgré la mémoire abîmée, malgré les doutes, malgré les épreuves, c'est possible. L'unité avec les autres, ceux qui me regardent au travers aujourd'hui, c'est possible. L'unité avec l'Église, c'est tirer comme ecclésia. Sentir avec l'Église, être en accord avec l'Église, et que c'est possible. Que l'Église soit en accord avec moi, parce qu'elle aura peut-être changé une formulation du catéchisme, c'est possible. C'est parce que je crois profondément que c'est possible que je fais ce que je fais, que je ne suis pas schizophrène, que je continue d'injecter dans mon ministère d'évêque, hein, dans mon diocèse, dans mes prises de parole, orales ou écrites, que tout le monde ne se sent pas également aimé de Dieu et aimé de l'Église, parce que nous ne savons pas faire ce qu'il faut pour ça. Et que donc, on doit y être attentif. Ensemble, en Église, c'est notre responsabilité, parce que c'est ce que Dieu veut. Voilà. Mais c'est parce que je crois que c'est possible de convertir les cœurs, les mœurs, des uns et des autres, nos façons de faire en Église, pour que tout le monde, tous, ait bien sa place et se sente aimé inconditionnellement de Dieu et de l'Église. C'est parce que je crois que c'est possible que je trouve l'énergie de continuer de poursuivre ma mission de pasteur. Voilà. Bon. Tout un programme. Votre livret d'année, comme toujours, est extrêmement bien fait. Vous le décortiquerez au fil des rencontres de vos groupes. Pour ceux qui appartiennent à des groupes, j'imagine que même ceux qui ne sont pas dans des groupes ont droit au livret et peuvent le lire tout seul. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, il faut être dans les groupes. Vous verrez les liens qui sont faits entre la parole de Dieu et le contenu de notre foi chrétienne autour de cette question, dans toutes les dimensions dans lesquelles cette question se déploie. Et le livret est vraiment emballé tout le champ, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Je vous encourage à rejoindre le groupe pour pouvoir le lire. Et à payer la cotisation qu'il y a avec. Ce que j'ai fait il y a quelques jours. Ma mission à moi n'est pas aujourd'hui de commenter le livret, je l'ai dit, encore moins de le paraphraser. Quand vous le travaillerez, quand vous le lirez, dites-vous que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel de ces passages, de ce qui est exprimé, de ces points de vue. Ça sert à ça, de confronter les choses et d'être prêt à bouger un peu, tous, tous. Il y a un truc dont je souffre beaucoup dans mon ministère de servir l'unité, c'est le fait que beaucoup abordent les échanges, les débats, quand il y a débat, ou des discussions, quand il y a discussion, ou les disputes plus fréquemment, en disant « c'est moi qui ai raison, il faut que j'arrive à convaincre l'autre de reconnaître que j'ai raison ». Alors c'est monsieur le curé qui prêche, c'est l'Église qui enseigne, c'est chacun de nous, tempé sur nos positions, accroché à nos convictions. Et l'unité, c'est quand l'autre a compris que j'ai raison et me rejoint dans ma conviction. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, l'unité. Voilà. Mais une fois qu'on a dit que c'est pas tout à fait ça, tout reste à faire. C'est très très compliqué, parce que est-ce qu'on croit qu'il y a une vérité objective des choses, une vérité en soi des choses, et qu'il s'agit pour tous de bouger pour s'accorder à cet en soi-là, et qui n'est pas nécessairement l'opinion fortement affirmée, ancrée de l'un ou de l'autre. Je souffre de ça parce que, dans bien des cas, c'est parce qu'il n'y a pas cet a priori de quelque chose qui nous est extérieur, supérieur, et qui nous oblige quelque part. Et quand on est chrétien, et on parle de révélation, on accueille Dieu tel qu'il se révèle lui, pas tel qu'on le rêve nous, nécessairement. Il faut poser comme principe que donc, il y a une conversion nécessaire, un déplacement nécessaire, il faut accepter d'être travaillé, de bouger, enfin, etc. Mais si on pose comme a priori qu'il n'en est pas question, c'est compliqué dès le départ, quoi. Sauf que cet a priori n'est pas souvent identifié et formulé. Alors on va discuter, c'est celui qui parlera le plus fort qui l'emportera, et puis etc., etc. Mais c'est pas ça qui est juste, quoi. Et dans des groupes de partage, tels que j'ai pu le vivre moi-même avec l'association, je trouve que c'est une très très grande richesse que d'avoir cette humilité de départ. Personne ne se sent plus malin que personne, et on cherche ensemble, quoi. Voilà, on cherche ensemble, on se met à l'écoute de la parole de Dieu, on se met à l'écoute de l'Esprit, on essaye d'avancer, modestement. Voilà, bon. Alors pour ma part, je vais plus vous parler à cœur et à esprit ouvert, partageant convictions de foi et expérience, même si le but n'est pas trop de vous parler de moi, bien évidemment, mais d'apporter un regard différent sur cette réflexion autour du thème de l'unité. Il ne s'agit pas d'abord de deviser savamment sur le sujet, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour le faire, mais de le rendre vivant au niveau du ventre, du cœur et de l'esprit en même temps. Alors vous me pardonnerez le côté un peu décousu de la chose, approximatif sans doute, un peu impudique si je mentionne mon expérience à tel ou tel moment, mais pour commencer, prenons les choses de loin. Genèse 1, verset 1. On ne peut pas faire mieux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour, et Dieu dit « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent à un seul lieu et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, il appela la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon, etc., etc. L'auteur du livre de la Genèse exprime quelque chose de très important pour nous. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il crée toutes choses. Il organise toutes choses, afin d'en confier la gérance à l'homme créé au terme et au sommet de son œuvre créatrice. Pour créer, il procède par séparation et organisation, en partant du chaos originel pour arriver à l'ordre magnifique que nous connaissons in fine. Tant au niveau de l'infiniment petit que de l'infiniment grand. Chaque chose créée est à sa place et s'articule de manière parfaite à toutes les autres choses créées. Lumière, ténèbres, ciel, terre, eau du dessus, les nuages et la pluie, eau du dessous, les océans et les sources. Je continue. Alors, astres du jour, astres de la nuit, animaux qui peuplent la terre, le ciel et les océans, l'homme et la femme à qui il confie toute cette belle organisation. Genèse 1, 31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour, repos. Du chaos vers l'unité de toutes choses. Chaque chose à sa place dans un ensemble cohérent. Voilà la vision biblique de la première intervention divine. Plus tard, beaucoup plus tard, un Teilhard de Chardin, mort en 1955, à l'âge de 74 ans, formulera à sa manière, dans une œuvre à la fois scientifique, poétique, théologique, magnifique, la même chose. Voici la présentation qu'en fait un très très grand dictionnaire qui s'appelle Wikipédia. Scientifique réputé, théoricien de l'évolution, Pierre Teilhard Chardin est à la fois un géologue et un paléontologue des vertébrés. Dans le phénomène humain, il trace une histoire de l'univers depuis la pré-vie jusqu'à la Terre finale. En intégrant les connaissances de son époque, notamment en mécanique quantique et en thermodynamique. Il ajoute aux deux axes vers l'infiniment petit et l'infiniment grand la flèche d'un temps interne, celui de la complexité en organisation croissante, et constate l'émergence de la spiritualité humaine à son plus haut degré d'organisation, celle du système nerveux humain. Pour Teilhard, matière et esprit sont deux faces d'une même réalité. Partant de là, il extrapole vers la suite de l'histoire, d'étape en étape. Partant des cellules les plus simples, ou avant même les cellules, les éléments les plus simples, vers la complexité toujours plus grande. L'homme là-dedans, ben, les hommes s'organisent en clans, puis en peuples, puis en nations, et puis on arrive à la mondialisation. Tant physiquement que spirituellement, et l'histoire continue. Et de fil en aiguille, tout cela avance et s'élève et converge vers un point oméga, où tout sera finalement unifié et concentré à l'extrême. Alors ça, c'est le regard du scientifique, entre le Big Bang originel où tout est dispersé, puis progressivement, ça se concentre et ça s'élève. Et puis à la fin, il y aura un point oméga, et ce sera la fin. Et le croyant chrétien et prêtre qu'il est n'a aucun problème à faire dialoguer ce regard du scientifique sur l'évolution avec sa foi au Christ qui, au terme de l'histoire, sera lui ce point oméga, ce point de convergence, ce point d'unité qui marquera la fin de ce que nous connaissons et la communion enfin accomplie en Dieu qui sera tout en tous, dit l'Écriture. C'est magnifique. Cette vision de Teilhard est absolument magnifique. 1 Corinthiens 15, verset 22 et suivant. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun a son rang, en premier le Christ, ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. C'est formidable. Nous sommes donc embarqués depuis la création du monde, dans une aventure d'unification qui nous précède, nous englobe, nous dépasse, nous appelle et suscite en nous un désir de coïncider à ça. En croire Teilhard, nous devenons un à notre insu, en quelque sorte, parce que c'est la dynamique de l'univers depuis son commencement, son moment alpha, l'acte créateur pour les croyants, un certain Big Bang pour les autres, bon, jusqu'à son point oméga, unique, infiniment dense de matière, d'esprit, de spiritualité, d'amour, au terme de toute chose. L'idéal est de consentir à cette dynamique, de la vouloir, de la désirer, et donc d'entrer dans ça, et de prendre conscience que nos vies individuelles et communes sont prises dans cette dynamique-là. Voilà. On a fait à Teilhard un procès en excès d'optimisme. Ça marche quoi qu'il arrive. Il s'en est défendu, intégrant les échecs, la maladie, les dysfonctionnements, et pour les croyants, le péché, qui implique la liberté, qui consiste à ne pas vouloir de ça, finalement, à s'en détourner, à tourner le dos à ce pourquoi nous sommes faits, à tourner le dos à Dieu. L'Église a fini par lui donner raison, après quelques hésitations, et François, le pape, le cite longuement dans Laudato Si, c'est un très très beau texte, en écrivant, citant Teilhard, que le Christ ressuscité est le point oméga récapitulant l'ensemble de la création. Voilà. Prenons les choses de loin. Deuxièmement, l'Église est le sacrement de l'un. Première considération, la constitution sur l'Église dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai cité, Lumen Gentium. Le Christ est la lumière des peuples, dit l'Église qui parle d'elle-même. L'Église est la lumière des peuples. Réunie dans l'Esprit Saint, le Saint-Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. C'est la suite qui est importante. L'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de deux choses, l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de mettre dans une plus vive lumière, etc., etc. Il faut que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ. Bon, chaque mot ou phrase compte. Ainsi, l'Église universelle, continue ce Lumen Gentium toujours, apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Unité en Dieu, unité de tout le genre humain. En partant du constat fait par Teilhard de Chardin que désormais, tous les humains sont étroitement liés entre eux. Make America great again. Et America sola, aurait pu dire Luther, s'il était né là-bas, sous Trump. Mais ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le sens de l'histoire, c'est pas le sens de la création, c'est pas le sens de l'histoire du salut, de ce que Dieu veut. Donc, bon, ça fera flop, quoi. Ça ne marchera pas. C'est pas conforme au réel. Bon. Et donc, il faut qu'on ait conscience de ça et qu'on. Ça, alors ça, c'est plutôt macro, quoi. Mais la même chose se joue à l'intérieur de nous aussi, vous voyez, à l'intérieur de nous. Et il faut en avoir conscience et le vouloir, pas le subir. Union intime avec Dieu, unité de tout le genre humain. Voilà. Et ça, ça s'appelle le salut dans la foi chrétienne. Alors, c'est quoi le salut ? Ben, c'est le fait d'être sauvé. Bon, et d'être sauvé de quoi ? Ben, de tout ce qui nous empêche de vivre ça. Unité à Dieu et unité entre nous. Et ce qui nous empêche de vivre ça, c'est deux choses, la mort et le péché. La mort, c'est, on ne fait pas exprès, parce qu'on est vivant, on est mortel. Mais on ne veut pas. Il y a quelque chose qui résiste à nous, à cette loi naturelle. Mais parce qu'on est des humains libres, en plus, à ça, on rajoute le mal qu'on se fait. Voilà. Et ces deux lois s'imposent à nous, malgré nous, quelque part, pour le péché, avec notre consentement. Bon. Je fais le mal que je ne voudrais pas, je ne fais pas le bien que je voudrais, dit saint Paul. La mort et le péché, c'est les obstacles qui nous empêchent d'être heureux. Le salut, c'est le fait de rendre ces obstacles pour eux. Ils n'en sont plus complètement. Et la passion du Christ, sa mort et sa résurrection, viennent percer cette fatalité de l'étanchéité absolue de la mort et du péché. On ne peut pas dépasser ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas passer de l'autre côté. Ben si, grâce à Jésus et sa mort et sa résurrection, ce mur n'est plus infranchissable. C'est donc possible que notre rêve devienne réalité. Voilà, c'est possible. Bon, l'union intime avec Dieu. On peut être uni à Dieu, et notre cœur désire ça. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, notre cœur désire ça. Mais je ne peux pas. Dans la Bible, l'homme, il a dressé les échelles vers le ciel, il a essayé. En dehors de la Bible, l'homme essaye de prolonger sa vie parce qu'il veut l'éternité. Il essaye de devenir meilleur, et le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on se promet que vraiment, ce qu'on vient de découvrir de la cruauté possible dans le cœur de l'homme, on ne nous y reprendra pas, tu parles. Bon. Mais c'est pourtant possible d'y arriver. Voilà. Union avec Dieu, intime, unité de tout le genre humain. Si vous avez l'occasion, si vous avez cette curiosité, allez lire le discours de Paul VI à la tribune de l'ONU en 1963, pendant le Concile Vatican II. La manière dont il s'adresse aux nations rassemblées, là, à New York, c'est bouleversant. Ce discours de Paul VI à l'ONU pendant le Concile est bouleversant par rapport au rêve incarné par l'Assemblée au milieu de laquelle il se trouve, et qui aujourd'hui est complètement battu en brèche. Mais ce rêve d'une humanité fraternelle, il est porté bien en dehors des cercles. Bon, voilà. Mais nous, chrétiens, on identifie ça, on l'inscrit dans une histoire qui est voulue par Dieu et à laquelle on adhère, et à laquelle on contribue. Et à laquelle vous, mes chers frères et sœurs, vous êtes appelés à contribuer aussi. Voilà. Ce désir d'unité, il est pour vous, pour nous, intérieurement, bien sûr, un défi, un combat. Bon, mais un combat dont la victoire est possible. Mais il est aussi une mission pour l'humanité, quoi. Pour l'Église, mais pour l'humanité tout entière. L'Église, le Concile dit qu'elle est sacrement du salut. Sacrement, ça veut dire signe et instrument. Signe. Le signe, c'est montre quelque chose qui n'est pas visible, une réalité qui n'est pas visible. C'est possible d'être sauvé. C'est possible de vaincre la mort et de vaincre le mal qui traverse le cœur de l'homme. Mais l'Église est chargée d'en être le signe. Et un signe crédible. Et c'est notre mission commune. C'est ma mission, c'est votre mission. Chacun, individuel, parce que baptisé, prêtre, prophète et roi. Et c'est la mission commune de toute l'Église. Et dans l'Église, ben, tout le monde a sa place pour assumer cette mission-là. Signe que c'est possible d'être uni à Dieu, que c'est possible d'être uni en soi, que c'est possible d'être uni aux autres, malgré tout ce qui nous sépare. Et il y a du pain sur la planche, on est d'accord. Mais c'est possible. Voilà. Et nous avons à en être des signes. Pour d'autres qui le désirent, mais qui sont convaincus, comme la fille de l'aumônerie, là, que cet idéal, il n'est pas possible. Ce qu'elle disait, l'idéal, c'est pas possible. Voilà. Ben si c'est possible, ben montrez-le. Montrez-le, soyez-en des signes. Soyons-en ensemble des signes. Mais aussi des instruments. C'est ça, le mot sacrement, c'est la conjonction des deux, des signes et des instruments. C'est-à-dire que on fait avancer le chemin biblique par nos manières d'être, par nos manières de faire, en le manifestant concrètement, pas simplement des déclarations d'intention, mais en posant des gestes, et en le réalisant, effectivement. Alors là, il y a encore plus de pain sur la planche. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. Vous êtes là, on est là. Ce qui s'est passé à Rome, avec le jubilé organisé par une association italienne LGBT, c'est bien identifié par les observateurs, les commentateurs, bien au fait de l'histoire de l'Église, comme un moment qui n'est pas banal. Pas banal du tout. Qui n'est pas allé de soi du tout non plus. Est-ce qu'on l'annonce officiellement dans le calendrier de tous les groupes jubilaires qui vont à Rome à cette occasion, cette année? Bon. Oui, non, oui, et puis non, et puis oui finalement. Bon. N'empêche que tout ça est inidou, mais c'est, et c'était inimaginable il y a quelques années. Moi, j'y vois une ligne, enfin, quelque chose qui indique une dynamique. Alors, c'est modeste, tout ce que vous voulez, mais ça va quand même dans le bon sens. François, il a dit des horreurs, mais il a aussi impulsé quelque chose d'original. Sa première interview dans l'avion au tout début de son pontificat, je crois que c'est ça qui sera retenu au final. Qui suis-je pour juger, vous savez, hein, vous vous rappelez. Bon. Mais ça a impulsé quelque chose, avec des hauts, avec des bas, avec des retours en arrière, y compris de sa part. N'empêche que, peut-être à son insu, il a enclenché une dynamique. Peut-être parce que c'est l'Esprit Saint, au fond. Et que c'est son boulot de l'écouter et de lui donner la parole, si j'ose dire. Voilà. Alors, on m'accuse parfois d'être l'invétéré optimiste et tout ça, mais quand même, quoi, je crois que l'idéal est possible. Vous voyez ? Désormais, plus étroitement unis entre eux, la vision de Teilhard, le constat du scientifique, les hommes sont appelés à réaliser également leur pleine unité dans le Christ qui, un jour, sera tout en tous. Et ça, ça vaut pour vous, membres de l'association, devenir un en Christ. Ce « en Christ », il est compliqué. Hein. Devenir un, on veut bien, on y aspire tous. En Christ, forcément, il y a l'Église autour. Et du coup, ça fait mal parfois, parce qu'il y a des blessures, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a des paroles maladroites, parce que je suis allé me confesser que celui sur qui je suis tombé n'a pas voulu me donner le sacrement de pardon. Je me bats à Lourdes. Quand j'ai été nommé, le nonce m'a dit, de la part du pape, il faut qu'à Lourdes, le pardon soit donné inconditionnellement à tous ceux qui viennent le demander. Faites en sorte que ça soit le cas. Parce qu'on a parfois des retours, jusqu'à Rome, que le sacrement du pardon a été refusé à des gens qui faisaient la démarche, pourtant à Lourdes, d'aller le solliciter. Bon. Tombe sur un prêt-zélé, douanier, comme dit le pape François, qui montrait le passeport, les visas, tout ça, mais s'il en manque un, on n'ouvre pas la barrière. Bon. Consigne donnée au nonce pour moi. Dites-lui qu'à Lourdes, on doit donner pardon tout le temps. J'ai transmis. Il se trouve que j'ai été rencontré personnellement le pape François en juin 2024. Il est mort en février ou mars suivant. Bon. Et il m'a redit ça personnellement. Il me dit à Lourdes, dites aux prêtres qui confessent qu'il ne faut pas poser des questions, scruter comme ça. Il a fait ce geste. Bon. Non. Quand les gens viennent, il faut donner pardon. Point barre. Je peux vous dire que j'ai de la réticence, hein, quand je transmets. Oui, mais quand même, la théologie, les rituels disent que oui, mais le pape. Compliqué. Compliqué. Et régulièrement, on reçoit un petit courrier, le recteur de Lourdes, moi, pour dire, voilà, même un prêtre, récemment. On dit, c'est scandaleux, un prêtre m'a refusé le pardon. Un prêtre qui m'écrit pour me dire « Un prêtre m'a refusé de parler. » Bon, alors on est en train de voir comment on peut pucer les prêtres qui sont dans les confessionnaux pour identifier le coupable et le bannir. Bon. Mais on fait des formations et voilà, on essaye de faire passer du sale. Faudra un siècle, hein, on fait ce toujours comme ça, c'est la vitesse de l'Église pour convertir. Mais il y a une dynamique, et je crois que c'est possible. C'est possible parce que c'est requis, parce que c'est le sens de l'histoire biblique, de l'histoire spirituelle, de l'histoire de Dieu avec les hommes. Quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé, avant d'arriver à Tarbes, j'ai été voir sur le site internet du diocèse, comment c'était fichu, et puis voir un peu une photo. Je connaissais le diocèse pour ses vallées pyrénéennes, et lieu de balade, le vacances, et tout ce que vous voulez, mais le diocèse, l'église comme telle, pas du tout. La cathédrale, pas du tout, en fait, etc. Lourdes, évidemment, mais c'est tout. J'étais à demi-heure de Tarbes, hein, chez moi. C'était conçu, le site du diocèse, je suis, et puis un menu déroulant, un jeune qui veut, je sais pas quoi, faire sa communion, un adulte qui veut se préparer au baptême, un couple qui veut se préparer au mariage, les parents qui veulent le baptême de leur enfant, on coche sur la case, et en face, il y a toutes les propositions, les numéros de téléphone, les services à contacter, et blablabla. Bon. Je vais voir la responsable du service com quand j'arrive, elle me présente un peu les affaires, et je lui dis, oui, j'ai vu le site, là, c'est pas mal, il me semble qu'il y a des manques un peu, non. Ah bon, vous croyez? Parce que c'est monseigneur le prédécesseur qui avait... Ben, j'ai dit, voilà, je suis divorcé, remarié, je coche quelques cases, là, pour voir, parce que l'Église, elle a plein de propositions, hein, pour accompagner les personnes en question, mais là, nous, non. Ah oui, c'est vrai, tiens. Je suis un chrétien homosexuel, je coche quel... ça y est pas. Ça existe, pourtant, vous savez bien. Puis il y a aussi les propositions, hein, pour... ça y est pas sur le site. Bon, on est en train de refaire le site du diocèse et ça y sera. Bon. On réforme le diocèse, les paroisses, mais pas seulement les paroisses, les services diocésains, l'organisation des services diocésains. Il y avait plein, il y avait 24, 25, je ne sais pas, services diocésains dans l'annuaire. En réalité, il n'en restait plus que 4 ou 5, parce que dans le schéma ancien, il y avait un responsable, un prêtre accompagnateur, un responsable, un prêtre accompagnateur, un responsable, un prêtre accompagnateur. Puis le jour où on n'a pas pu trouver de responsable pour succéder à l'ancien, ben, terminé. Alors sur le papier, ça existe toujours. Mais responsable N, point. Ça veut dire on attend de pouvoir mettre le nom de quelqu'un. Et puis depuis des années, il n'y a pas de service pour la pastorale des familles, il n'y a pas de service pour la pastorale des vocations, il n'y a pas de service pour la préparation au mariage, il n'y a pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu trouver des successeurs au fur et à mesure. Et ça veut dire que les attentions pastorales correspondantes n'existent plus non plus. Ça ne va pas. Bon, alors on réforme tout ça. On crée 3 pôles. On embauche 3 personnes pour coordonner ces pôles, annonce de la foi, diaconie, service du frère, formation, vie spirituelle. Les 3 travaillent ensemble, ils constituent une équipe et ils portent toutes les attentions indiquées. Ben, désormais, il y aura une pastorale des familles, dans la pastorale des familles, la pastorale des personnes concernées par l'homosexualité. Voilà. Etc., etc. Ce qui me plaît, c'est que quand on explique les choses, les proches disent mais oui, bien sûr, c'est évident. Parce que tout le monde connaît une personne concernée par l'homosexualité dans sa famille et tout, mais on ne fait pas attention, quoi. Ben, il faut faire attention. Bon. Donc, Lumen Gentium, union avec Dieu, unité des hommes entre eux. Ut unum sint, c'est un texte important de Jean-Paul II. Qu'ils soient un, qui reprend Jean 17, concrètement pour l'Église, être signe et instrument de la pleine unité dans le Christ, qu'est-ce que ça signifie et comment réaliser ça? Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Depuis le concile de Constantinople, Istanbul, 381. Le credo commun à tous les chrétiens nous fait professer notre foi en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. On va dire ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie quand on sait toutes les divisions historiques entre les églises chrétiennes, l'Église une? Qu'est-ce que ça signifie quand on sait toutes les divisions internes dans notre propre Église? Alors, puisqu'on m'a demandé de parler de l'unité de l'Église, ben, je vais le faire, en espérant que ça vous soit un peu utile. Bon. L'Église ne tient pas son unité d'elle-même, mais du Christ dont elle est le corps. C'est parce que le Christ est un, uni au Père et au Saint-Esprit, que l'Église, qui est son corps, est déclarée une. Elle l'est dans sa réalité invisible, même si elle ne l'est pas tout à fait dans sa réalité visible. Mais l'Église, vous savez, le Christ, on croit qu'il est dans une seule personne, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Dimension humaine, pleinement, dimension divine, pleinement. pleinement. Tout ça uni dans une seule et même personne, Jésus-Christ. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. Il y a ces deux réalités qui cohabitent aussi dans l'Église. Une réalité invisible, affectée par des qualités divines, celle de l'unité, par exemple, et puis la réalité visible, qui progressivement, et grâce à nous, et grâce à Dieu, doit converger vers sa réalité visible. Mais voilà, pour l'instant, il y a un décalage entre les deux. C'est ce que l'on constate. Bon. L'Église est une par sa source. Dieu, qui est un en trois personnes. Le modèle suprême de l'Église et de son unité est à trouver là. Et c'est vrai aussi pour nous. Et c'est vrai aussi pour nous. L'unité réalisée pour nous, en nous, pour éviter d'être schizophrène, fou, c'est justement de trouver la clé qui nous permet de faire cohabiter des choses qui, pour l'instant, nous déchirent, et de constater qu'elles ne sont pas nécessairement contradictoires. Et même chose entre nous. On ne nous demande pas de tous nous ressembler, on ne veut voir qu'une tête, d'être tous pareils, pour nous déclarer un. C'est quand l'autre aura compris que j'ai raison et qu'il sera devenu comme moi qu'on pourra être unis. Mais non. Vous le savez aussi bien que moi, hein. Quand on aime quelqu'un, quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un, d'unir sa vie à quelqu'un, il vaut mieux ne pas être les mêmes. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et pourtant ils ne sont pas trois dieux avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très difficile, par exemple, pour l'islam, qui nous accuse d'être polythéiste. Et c'est un problème qui existe depuis le début du christianisme. Comment c'est possible que Dieu soit un en étant trois visages, trois personnes? Et en plus, une de ces trois personnes est à la fois humaine et divine. Ça complique encore un peu. C'est ça le modèle qui nous aide à concevoir notre propre unité personnelle, intérieure. Pour un chrétien, il faut regarder du côté de l'icône de la Trinité de Roublev pour puiser la clé de notre propre unité personnelle entre mon corps, mon esprit, mon affectivité, ma mémoire blessée, mes désirs de grandes choses, de perfection, de vie, pour unifier tout ça, pour croire que c'est possible de le faire. Et même chose entre nous. Que ce soit dans un groupe, que ce soit dans un couple, dans une famille, que ce soit à l'échelle de la planète. Je terminerai, ou alors j'en reste là, c'est peut-être...
Ouais.
Bon, juste un point, un dernier point. À propos de certains motu proprio, unité de l'Église, unité dans l'Église. 7 juillet 2007, Benoît XVI, Summorum Pontificum. Il facilite l'accès de fidèles attachés au missel d'avant le Concile, 1962, en disant que les deux façons de faire, la messe d'avant et la messe d'aujourd'hui, sont les deux formes de l'unique rite par lequel les fidèles célèbrent leur Seigneur. En 2011, une note de la Commission pontificale Ecclesia Dei réaffirme les objectifs de cette facilitation accordé aux traditionalistes de pouvoir célébrer la messe à l'ancienne, sans pour autant se couper de la communauté, de la communion, sans devenir lefévriste, c'est-à-dire schismatique. Bon, ça va ? Le rite ancien, dit cette note, 2011, est un précieux trésor à conserver. Les fidèles doivent pouvoir y accéder, et cela doit permettre de favoriser la réconciliation au sein de l'Église. Unité, donc. Unité. Jean-Paul II, déjà, avait, dès 1988, donné des signes dans ce sens. Donc, Benoît XVI facilite l'accès à cette messe ancienne pour viser un retour dans le bercail de ceux qui avaient quitté l'Église pour suivre Mgr Lefebvre, pour servir l'unité de l'Église. Summorum Pontificum 2007. 2023, François, Traditionis Custodes, François abroge Summorum Pontificum. Dans la lettre qui accompagne le document, il explique que les concessions accordées par ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, pour l'utilisation du missel d'avant le concile, étaient avant tout motivées par la volonté de favoriser la guérison du schisme avec le mouvement de Mgr Lefebvre, dans l'intention ecclésiale de restaurer l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, c'est le bien qui en dépasse beaucoup d'autres, qu'ils soient un afin que le monde croit. On aura beau être géniaux, on aura beau être saints, on aura beau être parfait, on aura beau être tout ce que vous voulez, si on est divisé, ça n'ira pas. Qu'ils soient un afin que le monde croit. Donc il faut à tout prix tout faire pour être un. Donc, intention ecclésiale de restaurer l'unité de l'Église. Résultat, l'intention pastorale de ces deux papes de maintenir et de restaurer l'unité de l'Église aurait été souvent gravement négligée, écrit François. Il estime que la possibilité offerte par Jean-Paul II et avec une magnanimité encore plus grande par Benoît XVI afin de recomposer l'unité du corps ecclésial dans le respect des différentes sensibilités liturgiques aurait été utilisée pour, en réalité, augmenter les distances, durcir les différences, construire des oppositions qui blessent l'Église et en entravent la progression en l'exposant au risque de division plus grande. Et c'est vrai que dans certaines situations, et je le vois dans mon diocèse, cette facilitation donnée par Benoît XVI a été interprétée comme « chouette, ils reconnaissent qu'on a raison ». On a gagné une tranchée de plus dans la bataille qui nous oppose depuis le Concile. Tampons sur l'opposition et attendons qu'ils reconnaissent qu'on a encore plus raison et de gagner une tranchée supplémentaire. Et non pas, on apaise tout et on chemine ensemble vers quelque chose de plus unifié. François dit, stop, c'est l'hypocrisie, ça ne marche pas, eh bien il y a un seul rite, bon. L'intention, c'est l'unité. Les interprétations, les intentions prêtées aux uns aux autres, c'est un sujet à caution, hein, à discussion, tout ce qu'on veut. Mais voyez, ce qui est derrière, c'est de concevoir que l'unité de l'Église est un bien supérieur et qu'il faut tout faire pour y arriver. Et qu'il faut faire des concessions pour y arriver, et de part et d'autre. Dans mon diocèse, j'ai tout. Lourdes attire le tout, et tout le monde. Il y a une communauté liée à la fraternité Saint-Pie-X, donc là, c'est clair, si j'ose dire, parce que c'est en dehors de l'Église, complètement. Et puis, il y a trois prêtres de la fraternité Saint-Pierre. Fraternité Saint-Pierre, c'est Saint-Pie-X, mais qui est revenu dans l'Église, avec comme concession de pouvoir célébrer à la façon d'autrefois. Ils ont une communauté à Tarbes, dans la maison diocésaine, la chapelle de la maison diocésaine, le réaffecté, et une communauté à Lourdes, la chapelle de l'Hospitalet, pour ceux qui connaissent, leur est affecté. J'ai été invité à participer à la messe, d'un côté et de l'autre. Je préside au trône, en chape. On vient me demander l'état de bénédiction, au début, à la fin, au milieu, etc. Mais c'est le prêtre qui sait faire, qui célèbre la messe. Il n'y a pas de concélébration. Il y a un prêtre qui célèbre. Donc c'est le prêtre de la communauté qui le fait. Très bien, j'ai fait la même chose à Tarbes. Après ça, l'apéritif, les discours dans lesquels on se dit qu'on s'aime, tout ça, qu'on se fait confiance. Bon. J'ai la chance, franchement, dans mon diocèse, que les choses se passent bien, et bien avant que j'arrive. Deux des trois prêtres en question sont chapelains à Lourdes. Alors, ils ne participent pas aux messes, parce qu'ils ne célèbrent pas, mais par contre, ils font partie de ceux qui encadrent les processions, etc., etc. Et la messe qu'ils célèbrent dans leur communauté, fait partie des propositions des messes du sanctuaire. Elle est inscrite dans le tableau déroulant là, toutes les messes disponibles pour le sanctuaire. À Tarbes, ils sont au cœur de la maison diocésaine. Il y a une communauté d'étudiants, de jeunes pros qui habitent dans la maison diocésaine. Ils célèbrent la messe. Alors le matin, c'est les frères prémontrés, plutôt gauchos, qui célèbrent la messe à 9h30. Le soir, c'est eux, moins gaucho, qui célèbre la messe. Et voilà. Quand j'y suis allé, j'ai constaté que la plupart des fidèles de la communauté, ben je les connais. Et je les reconnais pour les avoir vus dans d'autres célébrations ailleurs, notamment à la cathédrale. Il y a une certaine fluidité, c'est pas crispé comme j'ai pu le connaître ici à Paris, avec des blocages idéologiques puissants, et c'est moi qui ai raison, et tant que l'autre ne bouge pas, ben, il n'y a pas d'unité possible. Au mois de juin dernier, ils m'ont demandé, ils ont envoyé les meilleures ambassadrices qu'ils pouvaient trouver, la femme du préfet pour les catholiques d'aujourd'hui, et une dame parmi les plus modérées pour les catholiques d'autrefois, les deux sont catholiques d'aujourd'hui, pour me demander si j'accepterais de présider une procession organisée en commun par les paroisses de Tarbes et la communauté, la fraternité Saint-Pierre. J'ai dit oui. Et on a circulé d'église en église dans Tarbes, derrière le Saint-Sacrement, et tout le monde était extrêmement ému, même les prêtres de la ville, je peux vous dire que ça, c'était pas gagné, pour vivre ce temps de communion ecclésiale derrière le Christ Eucharistie. Voilà. C'est possible. Tout ça pour dire que c'est difficile, mais que c'est possible. Et que c'est une bonne nouvelle aussi pour chacun de nous. L'unité, elle est difficile, on est d'accord, mais elle est possible. C'est vrai pour vous, votre place dans l'Église. Elle n'est plus à discuter, elle est là déjà. Mais ce n'est pas exclu que si vous allez dans un confessionnal, vous soyez mal reçu par un prêtre. Ce n'est pas exclu. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. On reste blessé en chemin, et il y en a qui sont toujours plus royalistes que le roi, et tout ce qu'on veut. Et il faut marteler, tous, dit le pape. Voilà. Mais il faut que tout le monde bouge. Vous aussi, d'ailleurs. Tout le monde doit bouger. Voilà. Merci.